Vous écoutez RTL. RTL, en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL en direct de l'équipe, votre rendez-vous Omnisport sur la première radio de France. Nous serons à Dublin dans quelques secondes avec Didier Deschamps pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2020. Et puis Sylvain, il sera question, Sylvain Charlet, de reprise du biathlon. Reprise du cyclisme, ouais. Également de l'entraînement pour les cyclistes.
Martin Fourcade a brillé, Romain Bardet fait du ski, espérons qu'il brillera plus sur le vélo que sur les skis. Et la reprise aussi d'une certaine Laura Gloser, membre de l'équipe de France de hand, qui a accouché il y a 7 mois et qui est en équipe de France aujourd'hui.
Et ce sera la belle histoire de la fin d'émission. Entre temps, le top d'éclat, évidemment, le baromètre sport Odoxa pour Groupama RTL consacré au Ballon d'Or. C'est demain qu'on aura le verdict. Un Français sera-t-il désigné?
Pour Modric?
Oui, il y a quand même Griezmann, il y a Mbappé, il y a Varane, il y a Ronaldo, il y a plein de
peur.
Monde. Nous
Je
en parlerons avec Gaël Sliman. Et puis évidemment, de 20h à 23h, soir de Ligue 1 avec le foot Bordeaux PSG à 21h cet après-midi, 0-0 entre Marseille et Reims, victoire de Strasbourg, 4-1 à Rennes et 2-2 entre Toulouse et Dijon.
RTL en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Allez, on débute ce RTL en direct de l'équipe, Sylvain, avec bien sûr le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2020. Il avait lieu aujourd'hui à Dublin et la France est tombée dans le groupe H.
Et dans ce groupe, la France va retrouver la Turquie, l'Islande, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Et je le rappelle, seuls les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro.
Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, est avec nous dans RTL en direct de l'équipe. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors, première impression sur ce tirage au sort qui est finalement relativement abordable quand même pour l'équipe de France.
C'est toujours les réactions après tirage, c'est toujours jamais évident. Voilà, oui, évidemment, ça aurait pu être pire. Déjà, on sait qu'on est dans un groupe de 6 avec des équipes que l'on connaît, puisqu'on a l'habitude de les rencontrer, que ce soit l'Islande, qu'on a joué dernièrement à Guingamp, et l'Albanie, qui fait partie des équipes que l'on rencontre régulièrement. Après, voilà, on a en Turquie où on aura... une ambiance très très chaude, et Moldavie où je pense pas qu'on ait souvent joué.
Non, ce sera une grande première, Didier. Ce sera une grande première face à la Moldavie. La Turquie, ça nous a toujours réussi. Enfin, ça a toujours réussi à l'équipe de France. 4 matchs, 4 victoires. Et puis, il y aura ce petit parfum d'Euro 2016, des retrouvailles avec l'Islande qui est incontournable depuis 3 ans, 3 matchs en 3 ans. Et l'Albanie qui nous avait posé quelques problèmes quand même.
Oui. Ben, ces équipes-là, on les connaît. Après, on attendra le calendrier des matchs, même si c'est une certitude. On jouera l'Islande au mois de juin par rapport aux restrictions climatiques. Après, l'Albanie fait partie des équipes avec l'Islande qu'on a l'habitude de croiser dans des phases de qualification.
Un petit mot sur le Ballon d'Or, Didier. C'est pour demain. Ce serait... Le mot est fort, mais ce serait peut-être un scandale si l'un des bleus champions du monde ne remportait pas ce trophée. La forte tendance, c'est de donner ce trophée au Croate Modric.
C'est pas moi qui vote, donc on verra bien. Je ne vais pas parler de scandale, mais je vais vous répéter ce que je dis depuis de longues semaines, de longs mois. J'espère et je souhaite que ça sera en français. On le saura demain soir.
Merci beaucoup Didier Deschamps d'avoir fait un petit passage éclair dans RTL en direct de l'équipe.
Merci, bon dimanche à tous.
RTL, en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Le drapeau français va flotter dans le ciel de Slovénie. Premier jour de compétition dans cette saison 2018-2019. Et première victoire pour l'équipe de France.
Très bonne entrée en matière collective. C'est toujours une belle victoire pour l'équipe et ça met du baume au cœur à tout le monde et de la confiance pour attaquer la saison.
Et oui, la reprise de la saison de biathlon avec bien sûr Martin Fourcade. Vous l'avez vécu tout au long du week-end sur la chaîne L'Équipe. Et donc l'équipe de France, vous venez de l'entendre, a déjà gagné une course. Le relais mixte cet après-midi, Sylvain, en Slovénie, à Poljuka. Justine Brezas, Anaïs Bescon, Martin Fourcade et Simon Destieu l'ont emporté.
Mais on avait hâte de retrouver le biathlon français.
C'est génial.
Déjà le biathlon, parce que c'est super télégénique, il y a une superbe ambiance, il y a un vrai suspense dans ces compétitions, on vous le conseille. Hein. Le ski, le tir à la carabine, nous, ça va nous animer tout notre été, notre hiver plutôt, ça va animer l'été également des athlètes qui se sont préparés. Et surtout, voilà, on a une équipe de France qui brille, avec son leader Martin Fourcade.
Oui, mais ne prévoyez rien d'autre hein, quand vous commencez à regarder le biathlon, parce que c'est impossible de décrocher.
Ouais, on ne décroche pas.
Rythme est fait tellement bien que du coup, bah, tu restes jusqu'au bout. Simon Destieu est avec nous d'ailleurs dans RTL en direct de l'équipe. Salut Simon.
Bonsoir.
Ouais, bravo, bonsoir. Bravo pour cette victoire d'entrée dans ce relais mixte, parfaitement géré. Les filles qui ont bien tenu au début, le relais en troisième position pour Martin Fourcade.
Tout le monde a fait du super bon boulot. L'équipe a été régulière, Simon. Hein.
Oui, un super travail d'équipe. Bah, c'est toujours comme ça lors de ces relais, surtout aujourd'hui. Donc voilà, ils m'ont donné un relais dans les meilleures conditions possibles avec beaucoup d'avance. Donc ça, c'était un petit peu atypique ce scénario-là, mais voilà, c'est beaucoup de plaisir pour tout le monde, pour tout le staff, et ça permet de bien lancer la saison. Ouais.
On précise pour nos auditeurs, Simon, que toi, tu as été le quatrième relayeur de ce relais mixte, que Martin Fourcade t'avait donné le relais en tête. Il faut gérer, c'est pas évident, parce que juste avant, Fourcade était parti en troisième position, me semble-t-il, et le Finlandais qui était devant lui, par exemple, il a bien géré jusqu'au dernier tir. La dernière balle, il a craqué. Tu vois, et Simon, il a bien tenu jusqu'au bout.
Oui, parce que Simon, ce n'est jamais évident. Alors, on attend beaucoup. Martin, alors dans quel état d'esprit on est ? Après, tu le connais depuis longtemps, vous vous côtoyez depuis de longues années, mais de se retrouver quatrième relais derrière le patron, ça fait quoi ? Comment on gère ça ?
C'est forcément un peu de pression, surtout que pour la première course de la saison, il y en a encore un petit peu plus. Mais voilà, ça s'est bien passé, content que la saison soit lancée. On avait beaucoup d'attentes sur ces premières courses, à voir un petit peu où on en est. Donc ça ne pouvait pas se lancer mieux que par cette belle victoire d'équipe. Donc voilà, c'est top.
Martin disait d'ailleurs que lui, pour l'instant, il ne se sent pas encore au top sur les skis. Toi, comment tu te sens en ce tout début de saison ?
Moi, ça va plutôt bien. Après, j'attends de voir sur les courses individuelles de la semaine prochaine comment ça ira encore. Mais c'est vrai qu'on a préparé un petit peu le début de saison. Mais voilà, c'est le temps aussi de trouver un petit peu ses marques, ses repères. On a fait très peu de confrontations avec les autres équipes dans l'été qui vient de se passer. Donc faut le temps de trouver un peu ces petits repères pour que ça se lance, quoi, finalement.
Et puis il y a des changements, il y a un changement de staff avec deux entraîneurs qui ont quitté cette équipe, qui ont d'autres occupations désormais.
On a changé tous les entraîneurs cette année de la Coupe du Monde, donc c'est un petit peu différent. On a travaillé forcément différemment dans l'été. Donc il y a toujours un petit peu d'incertitude aussi, mine de rien, parce qu'on a une très grande préparation en biathlon et une saison assez complète dans derrière. Donc on est un petit peu sans repère durant notre prépa d'été. Donc c'est bien de voir qu'on est dans le tempo et que ça joue.
Ouais, c'est vrai que Vincent Vitoz est le nouveau coach de cette équipe qui a brillé en ski de fond. Et dans l'équipe ce matin, les membres de cette formation française racontaient qu'il a notamment changé les donnes et que désormais on fait beaucoup plus de muscu. Et vous savez, les sportifs, ils ont un cadre très précis. Ils aiment répéter les choses, ils aiment avoir des habitudes. Simon, il vous a vraiment déstabilisé, Vincent Vitoz, votre nouveau coach ?
Il a amené beaucoup de choses nouvelles qui étaient des choses un petit peu du ski de fond français. Mais qui était un petit peu nouvelle pour nous, et je pense que ça nous a fait du bien de changer un peu notre routine qui commençait à être un petit peu longue depuis quelques années. Donc ça fait du bien de voir les choses différemment et de s'entraîner un peu différemment pour continuer d'avancer, quoi.
Bon, apparemment ça marche aussi, ça marchait déjà pas mal avant pour le biathlon français, mais ça redémarre bien dans cette nouvelle saison.
Il faut se renouveler.
Avec cette victoire donc à Poluca en Slovénie pour le relais mixte français, Anaïs Bescon, Justine Brezas, Martin Fourcade et Simon Destieux qui était notre invité dans RTL en direct de l'équipe. Bonne saison Simon, je pense qu'on va se parler
on
souvent.
On devrait se reparler régulièrement.
Ouais, ouais. Avec beaucoup de victoires, on le souhaite.
Mais il y a intérêt d'ailleurs, il y a intérêt Simon. Nous aussi on met la pression. Hein.
Nous, on ne change rien. On veut une équipe de France qui gagne et on la garde comme ça, elle nous plaît comme ça. Très bonne soirée, Simon, et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Éric Silvestro,
en direct de l'équipe sur RTL.
Avec la petite musique que vous connaissez bien, les autres résultats, c'est l'heure de l'entrée en lice dans ce studio de Bertrand Latour. Salut Bertrand.
Bonsoir Éric, effectivement.
On débute avec du rugby ?
Oui, absolument, avec le succès dans un match... très prestigieux de rugby, le Stade Toulousain s'imposait face au Stade Français 49 à 20, 6 essais à 2 pour les Toulousains, donc contre les Parisiens qui ont été pénalisés par 4 cartons jaunes. Un peu plus tôt dans la journée, l'USAP s'était incliné une fois de plus, 22 à 11 sur son terrain face à l'Union Bordeaux-Blègue, 11e défaite en autant de rencontres pour les Perpignanais. Du handball également avec de la Ligue des Champions, Nantes a concédé le nul 29-29 à Selgé lors la 10e journée de Ligue des Champions. champions. À la pause, Montpellier est mené 15-11 sur le terrain de Veszprém. Et on va terminer avec du ski alpin et le slalom géant. C'est Stéphane Louise qui est en tête pour le moment après la première manche du côté de Beaver Creek. Pinturo et Muffagenet sont dans les 10. La deuxième manche a lieu à 20h45.
Merci Bertrand. On parlait football tout à l'heure en vous donnant les résultats de l'après-midi et que je vous redonne. Si vous nous rejoignez, Marseille n'a fait que match nul 0-0 contre Reims. Strasbourg l'a emporté 4-1 à Rennes. Et Toulouse et Dijon ont fait match nul 2 buts partout. On parlera également de l'Angleterre avec le derby de Londres gagné par Arsenal 4-2 face à Tottenham. Et tu me disais, Sylvain, en ce moment, il y a un derby en Turquie qui est très très chaud.
Oui, entre le Beşiktaş et Galatasaray. Et on entre dans le dernier quart d'heure. Et c'est le Beşiktaş qui mène sur le score de 1-0.
C'était le week-end des derbys. Liverpool et Everton ouais. Également 1-0 à la 96e. On vous en reparle tout à l'heure dans le Conseil de l'Europe. Scénario incroyable. C'est Origi, l'ancien Lillois, qui a marqué.
Je peux le dire, une cagade.
Une vraie boulette de Pickford, le gardien international anglais.
C'est plus qu'une boulette.
Rendez-vous tout à l'heure dans le Conseil de l'Europe avec Bruno Constant. Juste après la pub, on monte sur le vélo avec Romain Bardet.
RTL en direct de l'équipe avec Eric Silvestro.
Bon Sylvain, nous c'est la reprise depuis un moment, mais oui. Pour les cyclistes, là
on ne s'arrête jamais. Nous, on
c'est
jamais.
En ce moment, et oui, les cyclistes qui retrouvent les routes et l'entraînement. Vous l'entendez peut-être, vous l'avez entendu, c'est Romain Bardet qui est avec nous aujourd'hui, le coureur d'AG2R La Mondiale. Salut Romain.
Salut, bonjour à tous.
Et ouais, ça y est, c'est la reprise. En plein automne, il pleut, il fait froid,
là,
tu dois remonter sur le vélo, c'est l'enfer ça Romain.
Ouais, c'est vrai. Là, pour l'instant, on n'a pas trop pris les vélos. On est plus sur la montagne, il commence à y avoir un peu de neige, donc c'est sympa. On se prend pour des biathlètes ou des fondeurs, mais bon, le fitness, je vous cache pas, il est pas encore trop là, mais c'est normal et on va se remettre un peu au travail, à la tâche. Avant les fêtes de Noël, on a un gros bloc pour après bien profiter des fêtes aussi.
Donc les vacances ont duré quoi? Un bon mois?
Oui, un bon mois. Il y a eu 5 vraies semaines pour moi depuis la mi-octobre où voilà, il y a eu aucune contrainte physique. C'était vraiment
10 kilos de prix.
Je suis jaloux. Hein.
Non, pas 10 kilos. Pas 10 kilos. Quand même, faut faire un peu moins parce que sinon après c'est dur à perdre.
Combien de kilos pris?
Non, on dirait 4, entre 4 et 5 kilos on prend.
Ça maximum.
4-5 kilos, c'est quoi? C'est 3 semaines et c'est réglé ça?
Non.
Non?
Un peu plus quand même. Plus.
Non, mais il faut pas faire trop brutal parce que c'est pas bon.
3 mois. Ce qui est terrible, c'est qu'il ne peut même pas passer par la case raclette. Raclette, tartiflette.
Pourtant, il est à la montagne.
Mais oui, en stage avec les
copains. Non, ouais plutôt tartiflette en Auvergne, plutôt Aligo. Mais là, on est dans Alpes, on prend une exception.
Bon, on revient aux choses sérieuses et à la saison qui s'annonce. J'imagine plein d'ambitions. Romain Bardet, il faut se remettre au boulot, ça on l'a bien compris. Mais bon, j'imagine qu'au bout de 5 semaines, de toute façon, ça devait démanger un peu aussi quand même.
Ça démange, exactement. Exactement. Et puis bon, on a fait quand même. Moi, j'ai besoin de faire un tout petit peu de sport. Alors, ça restait vraiment du sport santé, comme on dit. Mais j'aime bien chausser les baskets un peu l'hiver, comme ça, quand l'envie m'en prend, pour prendre un peu l'air. Parce que je pense que j'ai ça dans mon ADN d'être dans la nature, contact avec la nature et faire du sport. Et passer 15 jours ou 3 semaines sans sport, au bout d'un moment, j'ai vraiment envie d'avoir des sensations un petit peu de nouveau de sport. Mais maintenant, il est l'heure de reprendre un vrai programme, un petit peu plus d'entraînement et d'être un peu plus méthodique, on va dire, pour préparer les événements 2019.
Avec une décision forte déjà pour débuter ce stage-là, en début de semaine, Romain, tu as appris à tout le monde que finalement, tu ne ferais pas le doublé Giro Tour de France. Tu préfères te consacrer à la belle dame du Tour de France. Le Giro, pour l'instant, ce n'est pas ta priorité.
Il y a eu une vraie hésitation quand même cette année.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il y a une vraie hésitation parce que j'arrive aussi à une période de ma carrière où je suis en droit de me poser les bonnes questions. J'ai été performant sur les grands tours, enfin sur le Tour de France. Mais voilà, pour être encore meilleur sur le Tour de France, je sais aussi qu'il faut que je passe peut-être par des chemins un petit peu différents. Néanmoins, le parcours qui est proposé cette année au Tour me motive et je pense que c'est un des parcours a priori dans lesquels je devrais me sentir le plus à l'aise. Et c'était pas l'année, je pense, à spoiler le Tour de France pour ce plan de carrière là donc ce n'est peut-être qu'à partie remise, mais en tout cas en 2019 ce sera 100% Tour de France.
Ce sont aussi les 55 km de contre-la-montre sur le Giro qui t'ont fait reculer?
Il y a une partie de ça également, et puis surtout l'agencement du Tour de France, c'est-à-dire que vraiment un gros final alpestre, passage chez moi aussi à Brioude, en Auvergne,
juillet.
dans le Cantal, le départ à Saint-Flour, Saint-Étienne que je connais bien aussi, donc là, toute ma région, et puis sur des cols que je connais très très bien, que ce soit l'Iseran, le Galibier, l'arrivée mythique au Tourmalet, la planche des Belles-Filles que je connais bien aussi. Je vais arriver sur un terrain qui m'est assez favorable. Moi aussi, du moins que c'était difficile pour moi d'envisager de ne pas me présenter à 100% sur un tel parcours.
Romain, tu connais tous les numéros de téléphone par cœur comme les étapes du Tour de France?
C'est,
ou
incroyable,
c'est une
hein
mémoire incroyable, mais c'est vraiment parce que c'est le Tour de France. Je suis impressionné.
Ah non, oui, mais c'est mon jardin. Bon, on va pas se mentir, les Alpes, c'est là où je m'entraîne toute l'année. Je me sens comme dans mon jardin. Donc c'est clair que ça aurait été un crève-cœur de. Bien sûr, le challenge du Giro, et je vais y aller un jour. Mais ça demande d'agencer la saison totalement différemment et d'aller vraiment vraiment sur un Tour de France sans trop savoir pourquoi, après avoir fait un Giro à 100%. C'est pas encore dans mon état d'esprit, quoi.
Romain, tu sais que comme tous les ans, on va s'enflammer autour de toi, autour d'autres coureurs français. On va se dire encore, ça y est, cette année c'est la bonne. L'année dernière, je te raconte pas comment c'était parti dans tous les sens. Ouais, il va falloir encore gérer ça. On est dur, hein, les journalistes,
le public.
On attend.
C'est normal.
L'attente va encore être terrible cette année.
L'attente va être terrible, mais bien sûr, après, voilà, c'est pas une science exacte. Le vélo, c'est peut-être l'année où justement on m'attendra un peu moins. Peut-être comme l'année prochaine où ça marchera le mieux. Donc, on sait pas. Écoutez, moi, en tout cas, je sens que je progresse encore d'année après année. J'essaie de mettre des choses en place pour être un tout petit peu meilleur. Je sais que ça peut être à la marge. On peut faire basculer le tour sur une seule étape. Et en tout cas, j'y crois, je m'y accroche. Et on verra si, à la fin de ma carrière, si, ce qui s'est passé.
Puis tu sais, Sylvain, il y a une vraie différence par rapport à l'an dernier dans la préparation. C'est que l'an dernier, il fallait préparer le mariage à l'automne aussi.
Ah,
là,
monsieur est marié, donc c'est bon.
Là, c'est bon. C'est
à esprit libéré, tu
concentration
veux dire.
Concentration totale. Attends, préparer un mariage, c'est autant que préparer un Tour de France, hein, je peux te dire. C'est
oui, mais le mariage, c'est comme le vélo. C'est comme tous les matins, une remise en question au quotidien.
Il a dit, pardon. C'est encore pire, je l'ai entendu.
C'est bien dit.
Je t'ai entendu, Romain.
Belle métal de couple.
Bon, on te souhaite le meilleur, évidemment, pour la
merci.
Saison. On a hâte de te retrouver sur les routes et au plaisir de te recevoir sur RTL.
Merci à vous.
À très bientôt, Romain. Énergie.
Salut, les gars.
RTL en direct de l'équipe. Éric Silvestro.
19h48, on a bien ri avec Romain Bardet.
Ça.
J'espère qu'on va vibrer maintenant sur les routes du Tour de France, notamment. C'est l'heure de notre top d'éclat. Sylvain, le meilleur des petites phrases du monde omnisport. Et alors, il y avait un combat de dingue chez les lourds en boxe cette nuit à Los Angeles entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Alors, match nul à l'arrivée, on va y revenir dans quelques minutes, mais c'était chaud avant, pendant et après. Hein.
Ouais, ça a été chaud en effet avant, lors de la conférence de presse, lors de la pesée de la conférence de presse. Et vous allez entendre les deux qui s'invectivent et vous allez entendre surtout Deontay Wilder qui s'en prend à Tyson Fury. Écoutez-le. Et en effet, c'est très tendu. Donc, vous avez Wilder d'un côté qui est finalement le seul à parler. Je vais te botter les fesses. En boxe, la fessée est toujours autorisée. Tu dis que les tiens souffrent depuis 200 ans. Eh bien, les miens, sache-le, se battent depuis 400 ans et ils se battent encore aujourd'hui.
Alors, combat extrêmement spectaculaire. Fury est allé deux fois au tapis aux 8e et 12e reprise. Mais dans l'ensemble, je dirais presque qu'il a dominé le combat. C'était vraiment une surprise. Ça faisait deux ans qu'il n'avait pas boxé. Il a tenu tête au champion en titre. Alors, néanmoins, il conserve Wilder sa ceinture parce qu'il est champion en titre. Mais il y a eu match nul, sans doute revanche entre les deux garçons. Avant de défier Anthony Joshua. Mais voilà, c'était un combat qui a tenu toutes ses promesses.
Après, on a été interpellé par cette chronique réalisée sur un compte Twitter par un amoureux des pronostics. On est à Bordeaux et cet amoureux des pronostics, il est allé à la rencontre des étudiants de la Cage Business School. C'était la semaine dernière avant la rencontre de l'UBB, le club de Bordeaux-Bègles, face à Toulon. Et il a voulu piéger les jeunes étudiants, connaisseurs ou non, avec quelques questions rugby. Résultat garanti. Extrait numéro 1.
C'est mon sport préféré, même avant le foot, avant tous les autres sports. Et c'est vrai que c'est le sport que j'affectionne le plus.
Combien de points rapporte un essai transformé ?
Je dirais 5.
C'est mon sport préféré.
Un essai transformé ?
5.
Le sport que j'affectionne le plus.
Avec la transformation derrière. 8 peut-être.
Voilà. 3 et 7 points, évidemment.
Ah, ça y est.
Et c'est son sport préféré, vous l'avez entendu. Et là, il a été piégé.
Pas encore les points.
Deuxième extrait.
D'après vous, cette saison, qui finira meilleur marqueur de l'UBB ? Donc, est-ce que c'est Baptiste Serein ou Jimmy Briand ?
Non, Baptiste Serein.
Jimmy Briand. Baptiste Briand. Baptiste Serein, quand même. On confond pas l'UBB les Girondins.
Tu vois peut-être un essai de Jimmy Briand, du coup, samedi ?
Oui.
Réponse avec aplomb. Hein.
Bon, on rappelle que Jimmy Briand est l'attaquant des Girondins de Bordeaux, mais en football.
Exactement.
Peut-être ce soir contre le Paris Saint-Germain.
Et encore un petit peu de rugby. C'était hier sur Canal+. Hier après-midi, le choc entre Clermont et Montpellier. Clermont s'est imposé 28-23 grâce notamment à la bourde du Néo-Zélandais Crudon, le Montpellierain qui a offert une passe décisive au pied au Clermontois Damien Penaud.
Diagonale dans les bras. Attention à Penaud.
Il est parti, Penaud.
Il a accéléré, Damien Penaud, il va défausser tout le monde.
Il a laissé tout le monde derrière lui.
Oh l'exploit, oh l'exploit.
Voilà, un bel essai de 100 mètres qu'on voulait mettre en avant ce soir dans le top d'éclat.
Bravo, bravo à Damien Penaud. Pourvu qu'il en mette autant avec l'équipe de France, avec le 15 de France, ça nous ferait du bien. Le 15 de France en souffrance lors de la tournée d'automne notamment. C'était le top d'éclat, le meilleur des petites phrases du monde.
Éric Silvestro, en direct de l'équipe sur RTL.
Est-ce que nous aurons un top d'éclat d'un Français champion du monde avec le ballon d'or dans les mains ?
Je n'y crois pas.
Réponse demain avec l'attribution de ce ballon d'or tant attendu. Et c'était le sujet du baromètre sport Odoxa pour Groupama et RTL cette semaine. Gaël Sliman, le président d'Odoxa, est avec nous. Salut Gaël.
Bonsoir.
Alors on attend tous le verdict. Et vous avez posé la question aux Français, aux amateurs de foot. Alors ils espèrent tout de même que ce soit un Français qui va rafler la mise.
Oui, on peut même dire qu'il trouverait ça franchement logique. Ça a été l'habitude très souvent, vous savez, Eric. On a même vu parfois des drôles de ballons d'or attribués, hein, je ne dis pas italien en particulier, il y a quelques années. Et donc les Français sont une majorité à penser que un Français doit être désigné ballon d'or parce que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde. Et les amateurs de foot sont les trois quarts à estimer que ce serait normal. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de voir ensuite qui souhaiterait voir gagner le ballon d'or, eh ben, il n'y a pas de match, hein. C'est toujours un Français qui est cité, je vous le donne en mille. C'est Kylian Mbappé qui écrase complètement la concurrence. Il est deux fois plus cité que Griezmann et il est cinq ou six fois plus cité que Varane, devant les Ronaldo, devant les Messi, que ce soit par les Français ou par les amateurs de foot.
Alors ça, c'est les souhaits des Français. Vous avez également posé la question, mais qui le sera réellement désigné Ballon d'Or ? Et là encore, c'est Kylian Mbappé dans l'esprit des gens qui arrivent en tête.
Oui, le souhait rejoint le pronostic rejoint le souhait. C'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, les Français pensent que Kylian Mbappé non seulement mériterait, souhaiterait le voir. On n'a jamais vu un ballon d'or aussi jeune, hein, donc il souhaiterait qu'il réalise cet exploit-là. Il pronostique aussi, on a 40% de citations en faveur d'Mbappé auprès des Français, puis cible les Griezmann, Ronaldo, Modric, etc. Ce qui est plus intéressant, Eric, c'est que le match est un peu plus serré auprès des amateurs de foot. Et là, on voit émerger quelqu'un qui est souvent présenté comme le favori, Luka Modric, qui arrive en deuxième position, derrière Kylian Mbappé, 38% cite Mbappé, 21% Modric, en termes de pronostic. Alors on verra si ce pronostic quand même assez favorable des amateurs de foot se révèle demain, ou si le Croate Rafael.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'année Kylian Mbappé. Il n'aura peut-être pas le ballon d'or demain, mais je pense qu'à la fin de l'année, dans le JDD, il fera partie des 5 personnalités préférées des Français. J'en suis quasiment convaincu. Je pense qu'il va faire...
Même dans les 2 ou 3, voire le premier.
Ben voilà, je ne voulais pas me risquer en disant 5, mais c'est l'année Mbappé.
C'est l'année Mbappé, en effet. Alors, sera-t-il ballon d'or ou alors est-ce que ce sera Antoine Griezmann, Raphaël Varane pour les Français ? Après, il reste qui ? Oui, Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Ça se jouera sans doute entre ces 5-là. Réponse demain sur la chaîne L'Équipe, le Ballon d'Or, vous l'aurez évidemment également sur RTL. Et bien, on débriefera tout ça dans un autre baromètre, sans doute Sport Odoxa pour Groupama et RTL. Merci beaucoup, Gaël Sliman.
Merci.
Très bonne soirée, le baromètre que vous retrouvez chaque semaine dans RTL en direct de l'équipe. C'est vrai qu'on l'attend impatiemment, ce Ballon d'Or, un peu plus que d'habitude. Bah, forcément, la France est championne du monde, alors on y croit un tout petit peu.
Je pense qu'on sera déçus.
Le dernier, c'était Zidane, hein. C'était il y a 20 ans.
Mais oui, 20 ans. Eh oui. 20 ans déjà.
Eh bien, oui, on était champion du monde.
Hein, c'est vrai.
Il y a eu Platini, il y a eu Papin, il y a eu Coppa, mais le dernier c'était Zidane. Ah, allez, on espère pour un Français, mais Luka Modric semble quand même très très bien placé. Après la pub, la belle histoire, on va parler handball, maternité, restez avec nous.
RTL, en direct de l'équipe,
Eric Silvestro.
On termine ce RTL en direct de l'équipe avec la belle histoire de la semaine. Elle concerne le handball féminin. Les Bleus qui ont joué cet après-midi à Nancy, qui se sont rattrapés après leur défaite inaugurale contre la Russie. Elles ont battu la Slovénie 30-21. Ça, c'est pour l'actu, pour le résultat, Sylvain. Mais nous, on va revenir sur un des papiers qui t'a marqué, qui nous a marqué dans l'équipe cette semaine.
Oui, c'était hier. Il est écrit par Yann Ilvine, qui est avec nous. Salut Yann.
Bonjour.
Alors, dans cette équipe de France, il y a des patronnes à tous les postes. Il y a surtout une patronne dans les buts qui s'appelle Amandine Leno. Et sa doublure aujourd'hui s'appelle Laura Gloser, Yann. Et Laura, eh bien, elle vit une très très belle histoire. Elle aurait pu ne pas être sur les parquets aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, elle n'était pas là lors du championnat du monde que l'équipe de France a remporté l'an dernier en Allemagne. Pour la plus belle des raisons, elle attendait un bébé. Elle attendait sa petite fille Kalina, qui est née au mois d'avril. Et malgré ce qui est effectivement en principe un handicap pour une sportive de haut niveau, hein, pour revenir après une maternité, elle a réussi à mettre tout en œuvre pour revenir en équipe de France, pour reconquérir sa place et être présente aujourd'hui à Nancy pour le championnat d'Europe à domicile. Et elle a joué aujourd'hui, elle a joué encore contre la Russie, elle est performante et c'est vrai que c'est une très très belle histoire.
Maman, il y a seulement 7 mois et déjà de retour au sein de cette équipe de France. Ce n'est pas seulement en club, c'est déjà au sein de cette équipe de France. Alors ce qui est incroyable, elle n'a que 25 ans, c'est une sportive de haut niveau en pleine forme. Elle faisait de la muscu alors qu'elle était encore enceinte et elle a repris le footing très tôt, après la naissance.
Ah oui, oui, mais moi je me souviens de quand un de mes passages à Metz au printemps, j'étais très surpris, j'étais venu à l'entraînement des joueuses de Metz. Et de l'avoir vu, effectivement, qui arrivait, voilà, avec son énorme ballon sous la robe, et effectivement, elle venait participer à la séance de musculation avec ses copines, avec ses coéquipières de Metz. Bah, effectivement, elle a bossé jusqu'au bout. Les joueuses étaient elles-mêmes surprises, ses coéquipières. Mais effectivement, elle avait cette envie, ce besoin, cet objectif de reprendre, de retrouver Metz et de retrouver l'équipe de France. Et effectivement, elle a repris la course. Quelques semaines, un mois et demi après l'accouchement, elle fait une rééducation du périnée, hein, qui est très important pour éviter des conséquences physiques graves pour le corps d'une femme, et une rééducation accélérée, et ensuite elle a enchaîné effectivement une préparation physique personnalisée. La course m'a expliqué que pour elle c'était il y avait la magie effectivement de la maternité, mais en même temps ce besoin personnel de retrouver aussi, de transpirer, de faire des efforts, de se relancer, mais en même temps c'était extrêmement difficile, malgré tout le travail qu'elle avait fait en amont. Elle qui en plus, voilà, dans le point fort et le physique, elle en a souffert au début, voilà, de pas retrouver son corps tout à fait comme elle l'avait auparavant, mais elle a bossé énormément, et effectivement elle est revenue, hein, dès le début de la saison, du mois d'août avec Metz, et dès le rassemblement de l'équipe de France en septembre, on l'a retrouvée aussi sur les matchs amicaux où elle a été solide, performante, et elle a retrouvé sa place, malgré la présence auparavant de Cléopâtre Darleux, qui est une excellente gardienne, hein, également, qui était la doublure lors du championnat du monde, et elle a réussi à regagner sa place.
Mais en fait, Yann et Sylvain, elle avait tout calculé, elle s'est dit entre 5 et 7 mois, diversification alimentaire, tu dors pas, ça se réveille la nuit, je vais retourner en équipe de France, je vais faire le championnat d'Europe, je vais laisser ça au papa.
Ouais, il est très présent, elle parle de lui dans le papier d'ailleurs, elle dit qu'il est très présent, oui, limite elle le remercie. Hein,
les papas modernes, voilà, les papas du 21e siècle, et ben c'est une belle histoire qu'on a lue vendredi dans le journal L'Équipe, on lui souhaite le meilleur à elle et à cette équipe de France évidemment qui s'est relancée donc dans le championnat d'Europe à domicile en France en battant la Slovénie cet après-midi. Merci beaucoup Yann.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée à vous, le meilleur du handball. Sylvain, c'est également à retrouver dans le livre d'or du hand 2018 aux éditions Solar. Voilà, c'est le moment des cadeaux de Noël.
Eh oui.
Eh bien,
très bonne idée.
En voilà un très beau.
La une de l'équipe sur RTL.
On termine avec la une de l'équipe. Alors, c'est une émission spéciale reprise. On a parlé des biathlètes, on a parlé des cyclistes. Eh bien, une reprise également avec nous. Il travaille depuis de fort longues semaines. Mais c'est la première fois avec nous qu'il est dans RTL en direct d'équipe. C'est Hervé Fouillet. Salut Hervé.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien.
Eh bien, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, à la une de l'équipe demain, ou la crise à l'OM, je le sens bien.
Ça sera la crise à l'OM sur la une dans la région marseillaise, mais sinon, ça sera le match de ce soir Bordeaux-Paris.
Ah, Bordeaux-Paris. Bordeaux peut-il faire chuter ou douter le Paris Saint-Germain? Il y en a qui y croient, hein. Qui sait, pourquoi pas. Réponse tout à l'heure, coup d'envoi à 21h en direct en intégralité sur RTL. Merci Hervé, bah, au plaisir de vous lire, vous et tous vos petits confrères, demain dans tous les kiosques et puis dès minuit et demi pour la version numérique.
Vous écoutez RTL.